Je suis au premier chapitre de l'Évangile selon Marc, qui a décrit une journée du Christ fort chargée. Le lendemain, de très bonne heure, il s'est levé pour aller prier. Ses disciples l'ont cherché et, ensemble, ils quittent Capernaüm, leur port d'attache, pour parcourir la province de la Galilée. Je continue le texte. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Verset 39. Cette phrase résume sa tournée dans l'ensemble de la province, dont l'activité principale était de prêcher. La Galilée était divisée en deux. La montagne était habitée par les Égyptiens, les Arabes et les Phéniciens. C'est aussi là que se trouvaient les tribus d'Israël qui ont pour nom Aser et Nephtali. L'autre partie de la province s'appelait le Grand Champ et comprenait les tribus de Zabulon et Issachar, région où se trouvaient au moins 200 villes. Je continue le texte. Un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Oui, je le veux, sois pur. » Versets 40 à 41. Cette maladie terrible défigurait progressivement ceux qui en étaient atteints. De plus, les malades étaient de vrais parias, totalement exclus de toutes les activités, tant religieuses que sociales, de leur milieu. Cet homme n'était jamais touché par quiconque et ne pouvait entrer en contact avec qui que ce soit. Si sa famille ne l'avait pas abandonné, au mieux, elle lui apportait sa nourriture dans un bol et se tenait à distance. La seule relation possible entre eux était par signe. Il connaissait une existence pitoyable, un véritable supplice à tous les niveaux. En fait, il n'aurait pas dû fendre la foule et s'approcher de Jésus. La lèpre servait d'illustration du péché. L'Ancien Testament ne rapporte que deux guérisons de cette maladie opérées par Dieu, et pourtant ce malade est convaincu que Jésus a le pouvoir de le guérir. Sans présomption et sans douter, il supplia Jésus à genoux, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors le Seigneur toucha l'intouchable et guérit l'incurable. Ce contact humain montre que Jésus ne se sentait pas concerné par les règles des rabbins qui l'interdisaient. C'est par sa parole autoritaire « Je le veux, sois pur » que Jésus fit disparaître la lèpre. Le temps du verbe précise que cette guérison l'était une fois pour toutes. Je continue le texte. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya aussitôt, après lui avoir fait de sévères recommandations. « Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre » et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour la purification. Cela leur prouvera qui je suis. Versets 42 à 44. La guérison fut donc instantanée, complète et visible par tous. Mais Jésus ne veut toujours pas être assimilé à un faiseur de miracles. Il voulait aussi éviter les malentendus qui auraient pu précipiter une réaction populaire prématurée et fausse à son égard. Il ne voulait pas que son identité soit dévoilée tant qu'il n'avait pas montré clairement le caractère de sa mission. Ce n'est donc que progressivement que le voile sera levé et que Jésus révélera ouvertement qui il est. Par contre, il avait l'habitude de se soumettre aux prescriptions de la loi. En conséquence, il désire d'une part que l'homme soit reconnu officiellement pur par les autorités religieuses et d'autre part, qu'elle constate de leurs yeux qu'il avait accompli un signe messianique indéniable et donc que Dieu était à l'œuvre d'une façon nouvelle. Si les prêtres déclaraient le lépreux guéri, mais rejetaient le Christ, leur incrédulité serait une preuve incriminante de leur mauvaise foi. Dans le texte parallèle de l'Évangile de Matthieu, Jésus précise « Cela leur prouvera qui je suis ». Maintenant, je continue avec le dernier verset du chapitre 1er de Marc. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Verset 45. Au lieu d'obéir à l'ordre de Jésus, de garder le silence, l'homme proclame haut et fort l'histoire de sa guérison. On ne sait pas s'il est allé ou pas voir le prêtre afin de faire constater la guérison. Toujours est-il que le ministère de prédication de Jésus dans les synagogues de Galilée est compromis. Il ne pouvait aller quelque part sans rencontrer des foules recherchant des faveurs spéciales. Précédemment, on a vu que même lorsqu'il se retirait dans un endroit désert pour prier, ses disciples le poursuivaient. Ça, c'est pas une vie. Et puis, tous ces gens cherchant à se faire guérir sont pathétiques. Mais si j'avais été parmi eux et malade, eh bien, j'aurais été comme eux, apitoyant et voulant être guéri tout autant qu'eux. La supériorité de Jésus sur la loi est monumentale. Que dis-je? Incommensurable. La loi pouvait tout au plus constater la lèpre ou son absence, mais c'est tout. Jésus, lui, avait le pouvoir non seulement de faire des prodiges, mais aussi d'effectuer un renouveau intérieur dans le cœur du repentant, comme l'histoire du paralytique va le montrer. Nous voici arrivés au chapitre 2 de l'Évangile selon Marc, qui commence par la préposition « et ». Décidément, le lecteur n'a guère le temps de souffler. Donc, nous continuons avec la suite du récit, mais les 5 épisodes de cette section ont été rassemblés par l'auteur à cause de leur thème commun du conflit avec les autorités religieuses. Ces incidents n'ont pas eu lieu dans l'ordre chronologique qui nous est présenté. Je commence à lire. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. Versets 1 à 2. Jésus est de retour dans son chez-lui temporaire et voilà que réplique la foule avec sans aucun doute beaucoup de malades. Marc dresse un tableau de la situation d'ensemble, le cadre dans lequel va avoir lieu le premier conflit. Jésus, pressé de toutes parts, annonce le message de Dieu et celui-ci est tout à fait différent de la tradition niant-niant qui était au menu des religieux juifs. Je lis la suite. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Versets 3 et 4. Voilà 5 hommes, un malade et ses amis ou parents. Ne pouvant aborder le Christ à cause de la foule, ils se montrent créatifs et ont une idée pour le moins originale. Comme la plupart des habitations de Palestine, cette maison avait un escalier extérieur menant à un toit plat fait de poutres recouvertes de lattes, de paille et d'argile. Ils ont fait un trou et y ont descendu le paralytique. Je suppose que Jésus les voyait faire d'un coin de l'œil tout en continuant à prêcher. Je continue. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 5. Jésus vit les efforts déterminés de ces 4 hommes comme une preuve visible de leur foi en son pouvoir de guérir cet homme. La foi des porteurs soutient et accompagne celle du paralysé. Il ne leur reproche pas d'interrompre son enseignement, mais dit inopinément au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ». Dans l'Ancien Testament, la maladie et la mort étaient considérées comme les conséquences de la culpabilité d'une personne et la guérison comme un signe du pardon de Dieu. Ce concept était partiellement vrai parce que la nation juive fonctionnait en théocratie. Dieu était au milieu d'eux dans le tabernacle, d'abord, puis plus tard, le temple. La bénédiction comme la malédiction était alors le fruit de leur obéissance ou de leur rébellion envers l'Éternel. Ici, on ne sait pas pourquoi cet homme est paralysé. Ce qui est sûr, c'est que Jésus se préoccupe d'abord du pardon de ses péchés, ce qui laisse sous-entendre qu'il y avait sans doute une composante spirituelle à la base de la maladie de cet homme. La guérison physique que Jésus effectuera ensuite deviendra une simple illustration de la guérison spirituelle qu'il a effectuée sur le paralysé. Je continue. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Versets 6 à 7. Les religieux qui étaient présents sont offensés par la déclaration du Christ. Ils considèrent les paroles de Jésus comme un prétentieux affront contre la puissance et l'autorité de Dieu, une grave offense condamnable de mort à coups de pierre, la lapidation. Ils ont raison de penser que Dieu seul peut pardonner les péchés, mais ils ont grand tort d'accuser Jésus de blasphème. Ils refusent de voir en lui le Messie. Je continue. Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même » Verset 8. Les spécialistes de la loi avaient peur de confronter le Christ car il ne faisait pas le poids au niveau des arguments. De plus, ils craignaient la foule qui bien sûr vénérait le Christ à cause des guérisons. Donc ces messieurs religieux gardaient la bouche cousue, mais n'en pensaient pas moins. Jésus pouvait lire en eux comme dans un livre. Voici ce que dit un passage d'un autre évangile concernant cette connaissance de l'homme que possédait le Christ sur terre. Je cite « Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. » Fin de citation. Je continue le texte. « Qu'y a-t-il de plus facile, dire au paralysé « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Verset 9. C'est sûr que le premier venu peut affirmer à n'importe qui n'importe quoi si cela ne peut être vérifié. Or, comme nous ne sommes pas équipés pour appréhender ce qui se passe dans le domaine spirituel, celui-ci échappant totalement à nos sens, que pouvons-nous dire ? En conséquence, je peux moi aussi aller dans une prison et dire aux pensionnaires « Tes fautes te sont pardonnées », mais cela n'aurait aucune signification. Par contre, aller dans un hôpital et dire à chaque malade « Lève-toi, tu es guéri » et qu'il le soit, ça, c'est une toute autre paire de manches. Tout le monde sait qu'il est impossible à un homme normal de guérir quiconque instantanément. Seul Dieu, et dans certains cas les démons, peut faire cela. Donc Jésus se pose devant les scribes, qu'on appelle les spécialistes de la loi, en quelqu'un de capable de faire un prodige dans le domaine physique et par extension attester son autorité dans le monde spirituel qui lui est invisible et où les interventions sont non vérifiables. Je continue le texte. « Vous devriez maintenant savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara aux paralysés, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Versets 10 à 11. Je rappelle que le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque. À la lumière de la langue originale, donc, ce passage est des plus intéressants à cause de sa grammaire et de l'utilisation du terme « Fils de l'homme », titre qui n'apparaît qu'à la fin du ministère du Christ. Soyez sans crainte, je vous épargnerai tous les détails. Comme je l'ai déjà dit, Marc a mis bout à bout des incidents du ministère du Christ. Les paroles « Vous devriez maintenant savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés » est en fait un commentaire éditorial de Marc placé en quelque sorte entre parenthèses et adressé spécifiquement au lecteur, donc à moi et à vous qui m'écoutez. Ce que veut souligner l'auteur, c'est que ce Jésus qui faisait des miracles et qui stupéfiait les foules a le pouvoir d'accorder le pardon des fautes, une prérogative exclusivement réservée à l'Éternel Dieu. Jésus ordonne donc au paralytique de se lever, ce qui est une épreuve de sa foi, de prendre son lit et de s'en aller chez lui, ce qui est une demande d'obéissance. Je continue le texte. Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Verset 12. L'homme fut à l'instant rendu capable d'exécuter ses ordres en présence de la foule, y compris des critiques de Jésus. Ceux-ci furent forcés de reconnaître que le paralytique avait aussi reçu le pardon de Dieu. Tous étaient, le texte dit littéralement, hors d'eux-mêmes, tellement ils étaient abasourdis et époustouflés. Avec ce miracle extraordinaire et sa composante spirituelle, le ministère du Christ est bien enclenché. Il a commencé par l'annonce du règne de Dieu, déclarant celui-ci proche. Le récit en décrit les premiers effets. Un changement profond se produit dans la vie de certains. Ils répondent à l'appel de Jésus et le suivent. L'annonce qu'il leur est faite, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », révèle d'avance le rôle missionnaire qu'ils auront par la suite. Jésus accompagne le message du règne de Dieu en chassant les démons et en guérissant les malades dans toute la province de la Galilée. Les exorcismes se situent dans la suite du combat dans lequel Jésus est engagé. Il se bat avant tout contre le diable, le véritable ennemi qu'il est venu vaincre. Finalement, il pardonne et guérit un paralysé. Cet épisode suscite la première controverse d'une série de cinq qui s'achèvera au chapitre suivant. Je continue maintenant le texte de Marc. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. Verset 13. Jésus se retire des centres populeux et se rend au bord de la mer de Galilée où ceux qui veulent l'entendre doivent faire l'effort de se rendre. Marc fait à nouveau un résumé de l'activité essentielle du Christ qui consistait à enseigner, sous-entendu, la bonne nouvelle du royaume qu'il venait instaurer en tant que Messie. Je continue. En passant, Jésus aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage et lui dit « Suis-moi, Lévi », se leva et le suivit. Verset 14. Capernaüm était un poste de douane sur la route des caravanes allant de Damas en Syrie à la mer Méditerranée. Il y en avait sur toutes les grandes voies de communication. Aujourd'hui, on a modernisé tout ça et on a les péages d'autoroute où vous vous faites rançonner. Les portiques et les uniformes ont changé, mais le principe est le même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc à ce poste se tient un douanier qui s'appelle Matthieu, celui qui écrira plus tard l'Évangile. Il était collecteur d'impôts au service du gouverneur de la Galilée. Ses officiers du trésor trempaient dans des pratiques frauduleuses et se remplissaient bien les poches, un peu comme les politiques aujourd'hui, mais quand même en moins grand. À cause de leur magouille sur le dos des Juifs, les péagers étaient haïs de la population. Jésus l'invite à faire partie de ses disciples. Surprise. Matthieu lâche tout et obéit. Il abandonne un filon d'or à ses sous-fifres pour une vie errante. Le message et l'autorité du Christ devaient être prodigieux. Il nous est dit que ce Matthieu appartenait à la tribu de Lévi. Or, c'est celle-ci qui avait la charge du service au temple. Mais au lieu de cela, Matthieu s'était lancé dans les affaires. L'apparition de ce Lévite est par ailleurs un fait intéressant à la lumière de l'épopée du peuple d'Israël. En effet, la tribu de Lévi ainsi que 9 autres furent déportés en Assyrie vers l'an 732 avant Jésus-Christ et tombèrent dans les oubliettes de l'histoire. Or, ici apparaît un de ces Israélites perdus. C'est la preuve qu'un certain nombre d'Hébreux ont échappé à la déportation en cherchant refuge dans le territoire de la tribu de Juda qui était dans le sud de la Palestine lors de l'invasion du nord par le royaume assyrien. Éventuellement, le royaume de Juda subit lui aussi le même sort, mais plus tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ces déportés furent ensuite autorisés à retourner en Palestine. Voilà pour un peu d'histoire. Je continue le texte de Marc. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ses pêcheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent les disciples, versets 15 à 16. C'est ici la première fois de 43 mentions du terme « disciples » comme groupe distinct dans l'évangile de Marc. Les collègues à Matthieu étaient aussi présents parce que, étant tous haïs par les Juifs, ils se fréquentaient entre eux. Les pêcheurs notoires étaient un ramassis de personnes peu recommandables et de gens du peuple ignorants de la loi qui n'observaient pas les normes rigides des pharisiens, l'élite religieuse du pays, qui était le groupe qui avait le plus d'influence sur le peuple, qui leur vouait une très grande admiration. Les pharisiens étaient profondément consacrés à la loi de Moïse. Ils étaient plutôt du genre spartiate et réglaient strictement leur vie d'après les interprétations soi-disant obligatoires transmises par la tradition orale. De plus, ils étaient hyper méticuleux dans le maintien de la pureté cérémonielle. Ils critiquèrent Jésus de ne pas être séparatiste, de ne pas observer leur pieuse distinction entre les justes, c'est-à-dire eux-mêmes, bien sûr, et les gens de mauvaise vie, les autres, en somme. Vous et moi, en l'occurrence. Justement, Jésus s'associe sans aucun scrupule à ces personnes ordinaires et même un peu moins d'une façon qui aurait été impensable pour beaucoup de Juifs pieux de son temps. Le fait que lui et ses disciples partagent un repas avec des parias est une expression de confiance et de communion avec eux. C'est aussi une offense envers les saintes nitouches, je veux dire les pharisiens et les scribes, les interprètes de la loi, qui croient tout savoir et représenter le dessus du panier. Dans ce petit passage apparaît à trois reprises le tandem pêcheur notoire et collecteur d'impôts. Apparemment, il n'y avait personne de BCBG sur la liste des invités. Personne de bonne famille, noble et raffinée. Pas de beau linge, rien que des torchons, de la racaille et du chiendon. Je continue le texte. Jésus qui les avait entendus dire, « Comment votre maître peut-il manger avec ses collecteurs d'impôts et ses pêcheurs ?» leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Verset 17. Jésus répondit à leur critique par un proverbe bien connu et un énoncé de sa mission qui justifiait sa conduite. Quand il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes », Jésus est ironique pour désigner ceux qui se considéraient comme tels, c'est-à-dire les religieux de tout poil, mais les pharisiens en particulier. Ils ne voyaient pas leur besoin de se repentir et de croire. Mais nous savons, et Jésus savait, que tous, y compris les soi-disant justes, étaient coupables devant Dieu. Il était venu dans le monde pour appeler à lui ceux qui reconnaissaient humblement avoir besoin de pardon. C'est pour cela qu'il mangeait avec les pécheurs. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.